Cette radio.
Il va y avoir du sport sur cette radio de 19h à 20h, comme tous les lundis. On va parler débat, actualité sportive dans la bonne humeur. Alors, vous pouvez nous laisser les petits messages sur Facebook, sur la page Facebook et sur Twitter, le compte Twitter. Il va y avoir du sport. Alors, aujourd'hui, pour parler sport, à la technique, Amika.
Salut à tous.
Et nous avons Ludo à Clermont. Salut Ludo, tu nous entends ?
Salut, bonsoir à tous les deux. On est pas nombreux ce soir.
Hein. Et on n'est pas nombreux, mais vous savez pourquoi ? Parce que ce week-end, y avait la ronde de l'Isard avec toute la team Radio Vélo qui vous ont fait vivre cet événement pendant ces trois jours en direct. Et ils étaient un petit peu fatigués. Et du coup, il y aura pas Radio Vélo après non plus. Mais n'ayez pas peur, on les retrouvera dès la semaine prochaine à 20h pour parler de toute l'actualité des vélos et notamment faire un bilan du Giro qui finira dimanche prochain. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé ce week-end et notamment on démarrera par la dernière journée du top 14 en rugby qui a enfin livré son verdict, qui nous a tenu en haleine tout le samedi après-midi avec des jolis rebondissements. Et après la petite pause, on parlera tennis avec évidemment, comment ne pas en parler, avec l'ouverture de Roland-Garros, on donnera nos favoris, nos pronostics, les premiers résultats et on finira par ce Grand Prix de Monaco où on s'est un petit peu ennuyé jusqu'à 10 tours de la fin et un petit accident, on en reparlera tout à l'heure. Donc sans plus attendre, pour démarrer, on va faire le petit générique rugby, Mika.
Bonsoir, chers amis, la rubrique rugby.
Et oui, c'était la 26e et dernière journée du top 14. Et ça y est, après moult semaines à se dire qui va descendre, qui va être barragiste, etc., etc. On a toutes les clés en main. Et il y a eu des surprises, Ludo.
Ouais, une superbe journée. Hein. Fallait pas la manquer, celle-là, du suspense. pratiquement à tous les étages. Peut-être pour la deuxième, troisième place, là, il n'y a pas eu trop de suspense. Mais alors, pour la descente, même pour les places de barragiste, vraiment du suspense jusqu'à la dernière seconde, notamment du côté d'Ernest Vallon à Toulouse, de votre côté, quoi.
Exactement. Alors, si tu veux, on va parler, on va commencer par le bas du classement, les choses qui fâchent. Donc, on le rappelle, il y avait trois équipes concernées par cette dernière place, puisque Lyon, ça fait longtemps qu'ils étaient, relégués. Donc, il y avait Brive, il y avait Grenoble et il y avait Bayonne. Donc, pour Bayonne, la chose était simple. Il fallait gagner à domicile face à La Rochelle avec le point de bonus. Ils l'ont fait et après, attendre les résultats. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi, Ludo.
Ouais, malheureusement pour les Basques, quoi. Ils ont fait le job, hein. Mais ça a été peine perdue. C'est eux qui descendent. Pourtant, ils ont explosé La Rochelle 45-12. On avait dit la semaine dernière qu'ils allaient gagner avec le bonus offensif.
Ça, c'était fait.
Ils l'ont fait. Et par contre, la malchance jusqu'au bout, parce que terminé à égalité de points avec Castres, hein, c'est le classement final. Je crois que c'est.
C'est ça. 52. Ont, 52.
52. Bayonne, Castres. Et ben terminé à égalité de points avec Castres, c'était le seul cas de figure où les Basques descendaient. C'est-à-dire, on peut prendre tous les autres cas de figure. Ils seraient restés en top 14. C'est-à-dire une égalité avec Grenoble, ils se maintenaient. Égalité avec Brive, ils se maintenaient aussi. Pareil en cas d'égalité, Grenoble, Brive.
Triple égalité.
Et même quadruple égalité, oui. Avec Grenoble, Brive, Castres et eux, ils se maintenaient. C'est le seul cas où malheureusement, ils descendent en Pro D2. Ouais, c'est dommage pour eux, mais voilà, c'est comme ça. Ça leur pendait un petit peu au nez.
Donc Castres qui était sauvé avant le début de cette journée, puisque justement eux avec le ils descendaient pas puisqu'ils étaient toujours devant Bayonne, et du coup ça a déroulé, hein. Racing 53, Castres 10. Donc voilà, le Racing a pris le point de bonus, mais c'est surtout la surprise, c'est surtout la victoire de Brive bonifiée face au Stade Français qui pouvait encore avant le début de la journée espérer monter à la deuxième place, et finalement 27-0.
Ouais, 27-0, ouais.
27-0, on peut se poser la question, je sais pas ce que t'en penses toi Ludo, si t'as vu le match, sur la physionomie, mais le Stade Français qui marque 0 points, même si c'est à l'extérieur, ils ont quand même fait une grosse saison, je sais pas quelle était la compo, mais c'est vrai que on peut se poser quand même quelques questions, est-ce qu'ils ont tout mis dedans, je pense qu'ils étaient loin de faire le maxi, c'est toujours pareil, hein, fin de championnat, il y en a qui ont des enjeux, il y en a qui en ont moins.
Mais le Stade Français, enfin, Julio, tu seras peut-être d'accord avec moi, mais le fait de finir troisième, même Stade Français, tu faisais jouer contre Oyonnax ou Bordeaux, au pire, oui. À domicile. Là, c'est un derby francilien, oui. C'est plus compliqué.
Ouais, c'est plus compliqué.
Il leur fallait juste un point de bonus.
Oui,
défensif.
Juste un point de bonus,
ils finissaient devant Toulouse.
Ouais, exactement. Là, ils ont tout perdu. Alors, ils ont fait un petit peu tourner, hein, du côté de Brive, mais enfin, quand même, quoi. Prendre 4-0, repartir Fanny de Brive, qui vont, bon, certes, ils jouaient leur match en top 14, mais enfin, ça fait un peu tâche, là, dans leur parcours, mais quand même à noter, Brive, qui a fait un super match, hein. Voilà. Ils ont été motivés, comme rarement ils ont été cette saison, remarque, heureusement, hein, parce que sinon, ils étaient mal embarqués. Et puis, un homme dans ce match, qui a montré, toute la puissance briviste, c'est leur troisième ligne centre fidjien, hein. Koyama Ibole, qui a été époustouflant dans ce match, il les a mis dans l'avancée à chaque fois.
C'est le point, alors pour finir avec la relégation, c'est le point de bonus qui les sauve, parce qu'ils finissent avec 53 points. S'ils avaient gagné, mais sans le point de bonus, à 52 points, c'est eux qui étaient dans la nasse, avec égalité avec Bayonne.
Ouais, exact, c'est tous les cas de figure que j'ai dit tout à l'heure, voilà.
Et le dernier, c'est Grenoble.
Et très intéressant jusqu'à la dernière seconde, oui. Du côté du Matmut Stadium à Lyon, puisque dans le même temps, Grenoble perdait 29-24, et avec le bonus offensif, donc ça les ça les sauvait, mais il suffisait que Lyon, dans les derniers instants, marque une pénalité, c'était Grenoble qui était relégué en Pro D2, donc ça a été serré vraiment jusqu'à la fin, et un petit coup de chapeau, allez, belle réaction des Lyonnais, hein. Bon, ils descendent, on sait depuis longtemps, mais voilà, ils ont offert une belle sortie à leur capitaine emblématique, et ancien capitaine d'ailleurs du 15 de France, Lionel Nallet, voilà, c'était pour le petit clin d'œil du côté des Lyonnais.
Ils
ils ont voulu couler les voisins, finalement.
Failli.
Exactement. Je l'avais un peu annoncé la semaine dernière. S'ils pouvaient condamner Grenoble, ils ne seraient pas privés. Et puis, ça a failli presque réussir. À une pénalité près, Grenoble descendait en Pro D2. Mais voilà, mais c'est les Basques de Bayonne voilà, qui vont être relégués.
Lyon pour finir avec cette période, ces places de relégation, qui, pendant qu'ils étaient sûrs d'être relégués, c'est au niveau du recrutement a fait fort visiblement, puisqu'il y a Nalaga qui signe à Lyon. Je sais pas si
exactement,
tu le sais.
Si, oulala, ça a fait couler beaucoup d'encre là du côté de Clermont, mais au tout début il devait signer du côté de Toulon, et puis monsieur Mourad Boudjelal n'en veut plus, donc voilà, il a signé du côté de Lyon. On va voir un joueur comme ça en Pro D2, ça fait un peu mal au cœur aux supporters clermontois. Et super recrutement du côté de Lyon pour la Pro D2, ils prennent aussi Bonner, oui. Donc de l'ASM, et puis ils vont être coachés par
Nicolas
quand même,
Durand de Toulon.
Nicolas Durand aussi, oui.
David Atoub de Montpellier, ouais. Et coaché par Pierre Mignoni.
Pierre Mignoni, ouais, le triple champion d'Europe avec Toulon. Ouais, là, ça va être du costaud en Pro D2 pour eux. Je vais voir monter l'année prochaine. Enfin, on n'en est pas là. La Pro D2 est tellement difficile qu'on ne sait jamais, mais ça sera un des favoris.
On va se régaler avec le Loup, Bayonne, Biarritz, Perpignan. Ce sera un superbe championnat pour les deux.
Monde de Marsan.
Et Monde de Marsan, effectivement, mais ça, on va en parler un petit peu après. Et donc, il y avait le bas du tableau, donc en top 14, et puis le haut du tableau, où là, on a vécu à Toulouse une dernière minute de folie pour Bordeaux.
Ah ouais, alors là, ouais.
Fin de folie. Catastrophique pour Bordeaux, quoi.
Catastrophique pour Bordeaux, ouais. Faut citer quand même son nom, hein, j'aime pas trop, mais bon, c'est Lionel Boxis qui rate. Ouais. La pénalité, alors sur la sirène, quoi. Hein.
Exactement.
Voilà, s'il la passe, Bordeaux est qualifié pour les barrages, est qualifié pour la Coupe d'Europe. Ouais, il passe sixième et là, il perd de tout sur cette pénalité. Mais je voudrais faire un petit parallèle avec le match aller qui avait eu lieu donc du côté de Bordeaux. Ça a été un peu le même scénario, puisque c'est Pierre Bernard qui, à l'époque, ça devait être en octobre-novembre, a aussi raté une pénalité à la dernière minute en face les poteaux, donc face à ces mêmes Toulousains, donc deux pénalités ratées, alors que ça aurait pu au final faire deux matchs de gagner. Ouais. Et malheureusement, voilà, Bordeaux qui va terminer septième du championnat, grosse déception pour eux.
Alors c'est sûr qu'on voit et on fait attention effectivement à la dernière minute, mais Bordeaux, ils ont raté le coche. Le Stade Toulousain a joué à 14 pendant près de 60 minutes, je crois, avec une expulsion.
Oui.
Et ils menaient, ils se sont fait rattraper. Et puis la dernière, voilà, 23-22. Et cette pénalité à 22 mètres face au poteau. Enfin, c'est du tout cuit, ça, normalement. Et malheureusement, ça passe à côté. Ce qui permet à Oyonnax de finir 6e et de jouer miraculeusement les barrages.
Ouais, et puis il y avait eu un petit pari d'Urios, hein, l'entraîneur d'Oyonnax du côté de Toulon. Il avait mis un peu, on va dire, ses cadres et ses titulaires habituels au repos. Le pari a été gagné, mais si Boxis passe la pénalité du côté de Toulouse, voilà, le pari aurait été perdu pour lui. Donc il a fait un peu reposer quelques joueurs, c'était bien vu de sa part. Voilà, pour le futur barrage, justement, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais ça donne
Toulouse-Oyonnax.
voilà, Toulouse-Oyonnax en match de barrage. Sinon, Oyonnax a explosé à Toulon 46 oui. À 17. Match en sens unique pour les Varois. Ils n'ont jamais été mis en danger. Donc voilà. Donc Toulon qui termine aussi premier de la phase régulière avec la meilleure attaque.
Exactement. Toulon et Clermont donc, ils sont directement qualifiés pour les demi-finales. Et donc les barrages, c'est déjà la semaine prochaine. Et là, ça va s'enchaîner tous les week-ends. Donc la semaine prochaine, vendredi à 21h, à Stade Français face au Racing Métro, comme on l'a dit tout à l'heure, le derby francilien. Et samedi à 16h30 à Toulouse. Donc Toulouse-Oyonnax. Bon, ce deuxième match, ben, semble un peu plus déséquilibré. Hein, Toulouse-Oyonnax à Toulouse. Le stade toulousain devrait passer. Stade Français, Racing Métro. Au niveau de la dynamique des deux clubs, je trouve qu'ils se sont, justement, les deux clubs, ils sont pas dans une dynamique extraordinaire.
Oui, c'est pas.
C'est sûr que là, le Racing a gagné 53-10 à Castres, mais dernièrement, c'était pas top, quoi.
Ouais, c'était pas top. Ouais, et puis le Stade Français, donc comme on a dit, là, qui perdent à Brive 27-0, c'est surprenant. quand même, bon, comme à chaque fois qu'on le dit en rugby, avantage à celui qui reçoit. Donc je pense que le Stade français devrait quand même s'en sortir du côté de Jean-Bouin. Et puis je les trouve plus complets que le Racing. Ils ont une super défense quand ça attaque aussi. Avec peut-être le futur entraîneur des trois quarts, la Jeff Dubois, le futur entraîneur des trois quarts du 15 de France. Voilà, ça sera peut-être lui, mais enfin on verra. Ouais, ça attaque de partout, ça défend bien. Le Stade français devrait s'en sortir à domicile. Par contre, pour Toulouse, où il y en a, attention quand même, danger.
Toujours.
Toujours. Un match n'est jamais gagné à l'avance, quel que soit le sport. Avantage quand même au niveau de l'expérience à Toulouse, ils vont s'en sortir. Mais il faut quand même faire un petit peu attention à Yona. Justement, ils ont mis des cadres hors pot. Ils vont tout donner sur ce match-là. Et puis, il y avait eu, je sais pas, au match aller du côté de Toulouse, où Yona avait bien résisté. Il avait perdu de très peu du côté d'Ernest Vallon. Mais avantage Toulouse à l'expérience quand même. Mais faut quand même se méfier des joueurs de là.
Les Toulousains avaient eu une grosse période là, il y a un petit mois, quelque chose comme ça, mais sur les deux derniers matchs, ça fait un petit peu peur quand même. Hein. Une défaite et cette victoire, alors que bon, ça s'est joué très très peu face à Bordeaux à domicile. Il va falloir la jouer serrée, mais comme dit Ludo, à l'expérience, je pense que ça devrait le faire.
Ça devrait passer. Et donc du coup, puisque les tableaux sont déjà complètement faits, le week-end d'après, donc vendredi, sûrement, ce sera vendredi, ouais, je pense, Toulon, c'est à Bordeaux, les demi-finales. Toulon jouera contre le vainqueur du derby francilien, Stade Français Racing Métro. Et le samedi, Clermont, lui jouera contre Toulouse ou Oyonnax. Donc on se dirige doucement vers Clermont-Toulouse et un Toulon Stade Français pour nous ici. Il va y avoir du sport.
Donc un Toulon Clermont.
Voilà, comme d'habitude. Non, Ludo.
Exactement, ouais. On va un petit peu peut-être se chamailler là durant les semaines qui arrivent. Ça devrait être un Clermont-Toulouse quand même, donc ça va être tendu au sein de l'équipe. Là, il va y avoir du sport dans les prochaines semaines. Et puis, ouais, peut-être un Toulon Stade Français. Ouais, peut-être une remake, ouais. J'aimerais bien un Clermont-Toulon, ouais. Remake de la revanche.
On l'a eu en championnat il n'y a pas longtemps, mais c'était une fausse revanche, un match pratiquement sans enjeu. Tandis que là, une finale Toulon-Clermont, ce serait sympa pour les supporters clermontois. Mais c'est avec beaucoup d'enjeux et nerveusement difficile.
Difficile, ouais. Et puis je vais peut-être aller un petit peu d'ironie, on va mettre de la bonne humeur, je vais me faire chambrer par mes collègues de Clermont, mais on n'a jamais perdu deux finales de suite contre le même club en championnat. On peut le faire cette année, hein. On peut perdre deux finales de suite contre le même club, hein, contre les Toulonnais. Voilà, c'était aller juste pour un petit peu d'ironie, mais bon.
C'est que vous tombez jamais face au même, puisque vous gagnez jamais de finale. C'est quand même fou, ça.
Mais là, Toulon, ça, c'est embêtant, là, Toulon, depuis quelques années. Ouais. En tous les cas, des retrouvailles Clermont-Toulouse, ça nous rappellera les finales des années 90, 2000. Là, c'était des grands matchs, il y avait de superbes ambiances entre les supporters des deux clubs.
On aura le temps d'en parler donc, dans les semaines qui arrivent. Avant de clôturer cette page rugby, parlons un petit peu du barrage, hein, Mont-de-Marsan, Agen. Et c'est Agen, là aussi, qui l'emporte 16-15. Hein. C'était à Toulouse dimanche. Et pareil, Mont-de-Marsan qui marque un essai à la dernière seconde sur la sirène. Et Emmanuel Sobus, bon là, la transformation était vraiment un coin, donc très difficile. Ah ouais. Mais ça passe pas loin. Et enfin, malheureusement, c'est Agen qui montera un top 14.
C'est surtout que la transformation, c'est là, il la rate. Par contre, la pénalité qui a 5 ou 10 minutes avant, qui est à 15 mètres en face des poteaux, encore plus facile que celle de Boxis, il la rate aussi. Alors là, ça aurait peut-être pas fait la même suite derrière. Hein. Je pense que ça peut surtout s'en vouloir sur celle-ci.
Do.
Ah oui, c'est le demi de mêlée de Mont-de-Marsan. Et comme vous avez dit, bon, la toute dernière, la transformation de l'essai, là, est hyper dure. Donc bon, là, voilà. Mais c'est vrai que c'est même à la 64e minute. Ouais, c'est en face les poteaux.
Oui.
Il la rate aussi, donc ouais, c'est va être très dur pour Mont-de-Marsan. Mais je pense, pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les deux équipes, hein, le score le prouve, mais c'est l'équipe la plus joueuse et qui a pris le plus de risques qui a gagné. Et puis voilà, j'ai un club charismatique du rugby français, historique, hein, 8 titres de champion de France qui remonte dans l'élite, c'est bien. Bon, la bande à Cela, Blin et Kanka, ça va être dur quand même pour eux.
Ça va être dur pour eux.
Mais félicitations à eux. Et petit coucou à Vincent, la jeunesse de l'équipe, là, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il est en pleine forme et il est très satisfait qu'Agen monte en top 14.
Alors, entre lui qui est à Genève, toi t'es Clermont, toi et nous on est Toulousains, la saison prochaine, bon, ça va y aller.
J'étais à Agen hier, hein, pendant la finale, coïncidence, mais bon, ils étaient chauds du côté Itaïgaron. Hein.
Allez.
Et puis on fait un petit coucou à nos amis de Lille, puisque Lille va jouer contre Nevers pour monter en Pro D2. Donc voilà, peut-être que dans quelques années, voilà, il y aura Agen, Lille, Clermont, Toulouse, voilà, c'est ta radio réunie, voilà, on se chamaillera Un tout petit, je sais pas si on a le temps.
Oui, ouais, pour terminer, vas-y.
Ouais, pour terminer, la 7e place, parce qu'on dit que Bordeaux a raté les barrages, mais n'a peut-être pas raté quand même la Coupe d'Europe, parce qu'ils terminent 7e, et ils vont jouer un match à Worcester la semaine prochaine, je crois que c'est dimanche, contre Gloucester, donc les Anglais, qui ont battu les Irlandais,
Connacht,
40-32, un super match là aussi, je crois que
c'était
sensationnel. Donc s'ils gagnent ce match, ils sont qualifiés quand même pour la Coupe d'Europe, on va leur souhaiter quand même à nos amis bordelais de jouer cette grande compétition.
Exactement, eh bien, écoute, on te remercie Ludo. On te dit la semaine prochaine parce que là on parlera sûrement des barrages et bonne semaine.
Et ben bonne semaine à tous et puis voilà, bonne fin d'émission. Ciao. Salut.
Merci. Ben nous on va se retrouver après une petite pause pour la suite d'Il va y avoir du sport. I can be a nightmare of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen, and you've never met anyone who's as positive as I am sometimes. You see it.
Effectivement,
on va parler tennis. Il était pressé, Mika, pour parler tennis.
On rentre directement dans le vif du sujet.
Exactement. Et dans cette deuxième partie d'émission, on accueille Nico. Salut Nico.
Bonsoir messieurs, salut à tous.
Salut. Eh oui, c'est on le sait, à la fin du mois de mai, ça approche des beaux jours. On dit que les beaux jours arrivent, on sait qu'il y a Roland-Garros
et un Roland-Garros plutôt intéressant cette année. Il y a quand même pas mal de choses. C'est peut-être le tournoi du Grand Chelem le plus intéressant cette année 2015.
Exactement. Alors ça a démarré tranquillement hier et pour l'instant au niveau des résultats, ben évidemment pas de surprise. Hein.
Pas de surprise avec les favoris qui sont passés. C'est vrai que pour l'instant, bien sûr, les premiers tours vont être plutôt aisés. Même les Français sont à la hauteur, donc il n'y a pas beaucoup de grandes surprises. À savoir mon fils Simon Tsonga qui passe d'ores et déjà le premier tour. Djokovic n'est pas encore rentré en scène, donc tous les regards sont tournés vers le Serbe, bien entendu.
Exactement.
Figure d'ultra favori.
Alors on va parler peut-être un petit peu du tableau notamment pour les Français. Alors il y a le tableau, on l'a vu, c'était vendredi je crois, dès le tirage au sort, ben il y en a un qui faisait un petit peu la tête, c'était Gasquet qui se retrouvait du côté de Djokovic Nadal, donc du coup ben pour lui si tout va bien ce sera Djokovic en 8e de finale.
Oui, Gasquet qui est le Français qui tombe le plus mal, là, c'est clair. Après, c'est plutôt heureux pour le reste des Français, à savoir Tsonga qui est dans un tableau avec Berdych et Nishikori.
Exactement.
Donc à sa portée, même si plus personne ne croit vraiment Tsonga cette saison, en tout cas. Et on a surtout un Monfils et un Simon qui sont tous les deux dans la partie de tableau de Wawrinka et Federer. Ce sera un peu plus compliqué, mais ils ont la possibilité d'aller au moins jusqu'en huitième de finale.
Exactement. Donc comme tu l'as dit, alors là évidemment on se projette déjà en fin de semaine, voire lundi prochain, mais en huitième de finale effectivement, ce serait Monfils Federer et Wawrinka Simon, et c'est les deux vainqueurs qui s'affronteraient en quart de finale. Donc là il y a peut-être quelque chose à faire. Et ensuite Berdych Tsonga, et le vainqueur affronterait Nishikori, parce que de l'autre côté voilà, je vois pas Feliciano Lopez inquiéter par exemple Nishikori dans la table, petite partie de Nishikori quoi. Et donc on se dirige vers un Nishikori Federer peut-être. Et c'est Nishikori quand même qui a fait de bons tournois, de très bons Masters 1000, et il est un outsider qui serait pas mal de miser dessus peut-être.
Oui, enfin, sur cette partie-là de tableau, c'est vrai que c'est ouvert.
C'est très ouvert.
Federer, surtout. Federer a un boulevard devant lui. Personne n'ose le dire parce que tout le monde se demande s'il va être.
C'est ça, le problème, c'est son niveau. Voilà.
Si lui-même est à la hauteur physiquement et s'il va être en grande forme dans ce tournoi, à savoir s'il n'a pas déjà la tête à Wimbledon. Ça aussi, c'est la grande, grande question du côté de Federer. Mais sinon, en termes de tableau, peut-être qu'il n'a jamais eu ça. Il a rarement eu ça ces dernières années à Roland-Garros, parce que le gros fait majeur de ce tirage au sort là qui a eu lieu la semaine dernière, c'est quand même le Djokovic-Nadal en quart de finale.
Exactement.
Et c'est quand même le fait majeur et ce qui va préoccuper tout le monde lors de la première semaine. C'est quand même ce qui peut également faire relâcher certains joueurs. C'est-à-dire que dans la partie de Federer, beaucoup vont se dire on a tout à gagner. On a Federer diminué et on a Federer qui pense peut-être pas à fond en Roland-Garros. On a tout à gagner, on peut très bien se retrouver en finale.
Il y en a un autre aussi qui a tout à gagner, moi je trouve, quand on analyse ce tableau, et on n'en a pas encore parlé, c'est Murray. Dans la partie jusqu'au quart de finale, Murray, c'est facile, il n'y a personne. Il y a Isner, peut-être à huitième de finale, et il tombe dans la partie de Ferrer. Donc ça, on se dirige vers un Murray-Ferrer en quart de finale, et moi, donc ça veut dire, enfin, Murray pour moi, il est direct à 2000. Oui. Hein.
C'est le fait majeur, d'ailleurs tout le monde en parle de plus en plus. Je sais pas si tu lis si on lit un petit peu les journaux, tout le monde en parle. Tout le monde parle de Murray, comme quoi ce pourrait être le grand gagnant de la quinzaine, parce qu'il va jouer, il pourrait jouer un Nadal et un Djokovic diminués vu qu'ils sont en demi-finale. Ils se sont rencontrés les deux en quart de finale. Il peut profiter de ce paramètre-là et arriver à beaucoup plus frais en demi de son côté. Et surtout que Murray reste sur de très très belles choses dans les derniers tournois, dans les derniers Masters.
Exactement. Alors, il y a Mika qui vient de me montrer un résultat. J'ai parlé de Feliciano Lopez qui était dans la partie de Nishikori. Il vient de perdre la tête de série numéro 11 face à Gabashvili. Résultat, donc du coup, Nishikori, il est, à part Verdasco, mais 32e joueur mondial, c'est Ubautista 19e. Pour moi, Nishikori, il est pratiquement déjà en quart de finale face au vainqueur de Tsonga Berdych.
Ouais, non, mais c'est vrai que, après, il peut y avoir toujours quelques
surprises.
Quelques-uns qui peuvent émerger dans les tableaux. Après, il y a toujours un Verdasco qui traîne également. Non, c'est pas bien sûr fermé aux têtes de série, mais c'est clair que voilà, il y a quand même de sacrés boulevards pour certains joueurs.
Exactement. Et alors, ce Roland Garros, un petit peu, pour l'instant, ça a démarré à peine dimanche, mais par rapport aux autres années, comment tu le sens au niveau médiatiquement? Est-ce que peut-être ce niveau un peu plus faible des Français cette année, du coup, on attend peut-être un peu moins de choses?
Oui. De toute façon, on n'espère pas de miracle. Et puis surtout, on voit ces dernières semaines, ces derniers mois, que Djokovic arrive en très très grand favori. Enfin, la vraie donne, elle est là. Nadal n'est plus au niveau, ne paraît plus au niveau, en tout cas, ces dernières semaines, et laisse sa place de grandissime favori à un Djokovic qui, lui, ne rêve que d'une chose, c'est d'aligner Roland-Garros à son palmarès. C'est quand même une sacrée donne, un sacré challenge, et je pense que médiatiquement, ça se ressent. On regarde plus Djokovic-Nadal que nos Français qui, on va dire, faiblissent. Non, déçoivent de plus en plus ces dernières années. Quoi.
Oui, puis ça parle peut-être moins de Roland-Garros cette année aussi, parce que, comme tu dis, Nadal est un petit peu moins en forme, Djoko grand favori. Djoko, il fait peut-être pas rêver non plus les médias comme pouvait le faire un Nadal ou un Federer. Donc forcément, derrière, ça se ressent aussi. Je sais pas ce que tu en penses.
Ça va augmenter. Je pense que ça va monter petit à petit.
Oui.
Parce qu'on va voir Nadal. Enfin, faut déjà d'abord voir les premiers tours de Nadal. S'il a au moins une chance en quart de finale face à Djoko, C'est ça qui va se voir dessus.
Voilà, on verra si physiquement il est au point, s'il arrive à ne pas trop s'user sur les premiers tours et qu'il arrive en forme en quart de finale. Je pense que Djokovic, enfin, on parle de Nadal, on pense qu'il est dégoûté de tomber contre Djoko. Enfin, moi je pense que vu le niveau de Nadal actuellement, ben il était sûr de tomber contre un gros, alors que Djokovic c'est quand même celui qui a pas eu de bol, quoi.
Oui, ah bah,
par rapport à Murray, à Federer et tout.
Il est numéro 6, Nadal. Hein. Il s'attendait à choper un gros assez rapidement. Et peut-être que pour Nadal, c'est une bonne chance de le prendre en quart. Le Djoko, il aura beaucoup moins de matchs à jouer avant. Il aura que 4 tours à faire. Il arrivera un peu moins fatigué, si on peut le prendre aussi comme ça. Hein.
Par contre, il a aussi quand même un petit problème de confiance, Nadal. Et là, jouer moins de matchs faciles avant de prendre un gros, il va peut-être pas avoir le temps non plus de se refaire, de se remettre vraiment dedans. Moi, je voyais plus monter en puissance au fur et à mesure dans le tournoi. Et donc, il valait peut-être mieux prendre le gros plutôt vers la fin, quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir.
Moi, je vois Djokovic grandissant favori.
Ah oui,
Nadal. Là, j'y crois plus. Donc, on peut essayer de vendre le quart de finale comme on peut, mais très sincèrement, je vois Djoko s'imposer largement. Et puis, il y a que des outsiders à côté. Et même Federer, j'ai du mal à imaginer Federer au-delà de la demi. Donc voilà, je vois Djoko très très grand, très largement au-dessus de tout le monde.
Donc ce serait l'année enfin pour Djokovic à Roland-Garros.
Ouais, il y aurait de quoi. Et puis bon, après pour les Français, tu m'as compris, on espère plus grand chose, on attend une surprise.
Voilà, exactement. Bah après, voilà une surprise. Mais par contre, ils ont quand même, alors petit boulevard entre guillemets, ils sont quand même trois ou quatre à, pour moi, avoir le niveau et par rapport aux adversaires, par rapport au tableau, arriver en quart de finale. Hein.
Ah oui.
Enfin, huitième de finale, et après voilà, après ce sera sur un match. Je pense qu'on en aura au moins un quart. Allez.
Bon, allez, moi, même si Simon est un petit peu diminué, je crois qu'il a eu une blessure au dos récemment. Je pense que Simon, vu son tableau,
face à Wawrinka,
Simon peut faire un quart. Voilà. Face à un huitième face à Wawrinka. Si je regarde bien.
C'est ça. Huitième face à Wawrinka, enfin, Simon.
Un huitième pour si c'est notre meilleur français, ça fait quand même peur.
Ah, moi, allez, Tsonga. Tsonga, j'ai trouvé bon, moi. Tsonga, là, son premier match facile en 3-7. Et lui, là, en huitième, c'est Berdych qui est pas très à l'aise sur le terrain battu. Pourquoi pas lui?
Berdych, c'est solide quand même. Hein. Je crois que c'est costaud. Je crois qu'il a été en finale là récemment. Je crois que c'était à Madrid ou Rome, mais c'est solide, hein, c'est solide Berdych.
Après, en général, à Roland, on a toujours une petite révélation française. Il y a toujours un petit jeune qu'on connaît pas trop.
Pas
pour un quart, évidemment, mais qui passe quelques tours, qui arrive en huitième. Et ça, on en a quand même besoin parce que les Français, mine de rien, ça fait un moment qu'ils sont sur le circuit. Ils commencent à se faire vieux, même s'ils ont toujours l'air jeunes. Hein. Mon fils, ton gars, ils sont plus trop sur le début. Il va falloir que la génération suivante arrive et malheureusement, on la voit pas du tout venir, la génération suivante. Donc, il va falloir que d'ici un ou deux ans, il y en ait un qui sorte du chapeau, quoi.
Complètement, mais là, il pourrait y avoir Benoît Paire qui pourrait sortir du lot. Mais bon, ça, c'est vrai que sur le tableau, tu as du mal à définir un joueur de la nouvelle génération, à part Lucas Pouille qui est coaché par Noah.
Hein, et voilà,
il vient de perdre.
Exactement.
Il vient de perdre face à Simon. Donc, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir.
Si en plus ils prennent des Français au premier tour.
Exactement.
Et en plus.
Bon, on parle rapidement du tableau féminin. Alors, comme d'habitude, les médias, nous avec, on en parle toujours un peu moins parce que, même si, j'allais dire, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Mais chez les hommes aussi, finalement.
Oui, mais c'est là, comment dire, c'est les outsiders qui sont pas véritablement au niveau. Donc on a Sharapova qui est tenante du titre, qui paraît en très grande forme dans cette saison de terre battue, et une Serena Williams plutôt diminuée qui était blessée il y a une semaine et qui apparemment va beaucoup mieux, donc pourrait écraser quelques joueuses d'ici les premiers tours. Mais apparemment grandissait une favori Sharapova qui pourrait s'installer là. Ouais.
Sharapova justement à cause justement de ces petits pépins physiques de Serena, Sharapova c'est peut-être le moment de battre Serena à Roland Garros. Et écoutez,
française.
La petite Caroline Garcia qui était
elle vient de perdre
qui a perdu hier et qui était toute en émotion, elle a craqué quoi sur le court Philippe Chatrier. Et ça faisait peine à voir, mais effectivement au niveau français on se plaint, mais alors au niveau française c'est très compliqué.
C'est compliqué parce que Mladenovic, qui pourrait peut-être avoir une petite chance, tombe sur, contre la 6e mondiale Bouchard, ouais, la canadienne. Vous m'avez compris. Cornet, on est déçu d'année en année, donc on va pas lui demander grand chose encore une fois en 2015, parce que sinon c'est déjà passé un tour, ce sera pas mal pour.
C'est fait
pour Cornet.
Elle a réussi son tournoi.
Et que peut-être la troisième joueuse peut-être intéressante, ce serait Parmentier, mais à voir également si elle peut passer un ou deux tours.
Exactement. Ben,
Mladenovic aussi, bon.
Mais contre Bouchard, ça va être compliqué. Ouais, c'est ouais.
Non, mais si il passe, bon, on sait jamais. Un exploit au premier tour, Bouchard qui est pas trop en forme. Derrière, la route est un petit peu libre, du coup.
Oui. Mais c'est ça.
Sans trop y croire.
C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Et bien, de toute façon, on aura le temps d'en parler déjà la semaine prochaine. On verra combien de Français il nous reste. On a pu en parler là parce que, comme le tournoi vient de commencer, ils sont encore pratiquement tous là. Donc, mais la semaine prochaine, déjà lundi prochain, ce sera déjà beaucoup plus compliqué. Allez, on va parler maintenant Formule 1, sport mécanique. On n'en parle pas souvent. Mais là, c'était quand même le Grand Prix mythique ce week-end à Monaco en Formule 1. Et je dirais presque comme d'habitude, mais on va en parler. Ben, on s'est un petit peu ennuyé jusqu'à l'accident.
Ok, Sébastien, good job. I need to wait until everybody crosses the line. I need to wait, but it's looking good. You just wait, sunshine. You just wait. Hamilton, P2. Button, P3. There's another two cars going round in 15 and 16. Rosberg, P4. Kubica, P5. Dubist, Weltmeister. Sebastian Vettel, you are the world champion. The world champion, well done.
Il sera certainement pas champion. Il sera certainement pas champion cette année. Mais en tout cas, ça a parlé. Hein. Ça a parlé dans les box, ça a parlé dans les radios, parce que ça s'est joué sur un coup du sort, ce Grand Prix, Nico.
Oui, sur une erreur d'un ordinateur. Hein.
Oui.
On est bien d'accord. Hein. C'est un ordinateur qui a donné les consignes à la triplette, aux 10 ingénieurs de Mercedes, a demandé donc. Cet ordi a demandé à Hamilton de retourner dans les stands alors que ça ne s'imposait pas et alors que l'erreur est énorme de la part de Mercedes. En même temps, ils ont un deuxième coureur. Moi, c'est toujours ce qui me plaît dans Formule 1. Ils ont quand même Rosberg qui a gagné. Mais on a l'impression qu'il y a une affaire d'état exceptionnelle parce que Hamilton n'a pas gagné. À se demander ce que fait Rosberg dans cette équipe.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas tant l'affaire d'état, c'est-à-dire que Hamilton a été le meilleur sur tout le week-end en plus, hein. Sur tout le week-end. Il tenait la course, et c'est une erreur de sa propre team qui lui fait perdre, non pas que la première, mais la deuxième aussi. Donc au niveau de l'écart, l'écart de points, c'est quand même pas pareil, c'est pas la même musique. Hein.
Oui, mais tu l'as dit, il a fallu attendre cette erreur-là, déjà l'accident de Verstappen.
Voilà, on va en parler.
Sur Romain Grosjean, qui a voulu faire un petit peu le foufou dans les virages de Monaco, le jeune pilote, 17 ans, qui a voulu.
Voilà, il n'a pas le permis, c'est normal qu'il y ait des accidents.
Il n'a pas encore le permis, il n'a pas très bien compris comment ça se passait à Monaco, qu'il y avait quelques rails qui pouvaient.
Il n'a pas l'habitude de conduire en ville, ça aussi, il n'a pas le permis.
Et il a fallu attendre ça pour voir cet incident-là. Mais tout était joué. Mais c'est vrai qu'Hamilton était 10 fois au-dessus de tout le monde. Et c'était incroyable. Le scénario était d'ores et déjà écrit. Il a fallu attendre un accident pour voir un minimum de spectacle. Et encore juste un minimum, parce qu'après, il ne s'est plus rien passé.
Exactement. Alors, c'est vrai que tous les ans à Monaco, c'est un petit peu pareil. S'il n'y a pas un élément, je dirais, presque extérieur, hein, que ce soit d'un coup les pluies, donc du coup, il faut tout le monde rentrer au stand, etc., ou un accident où on fait rentrer la safety car, du coup, tout se rapproche, il se passe, comme c'est très difficile de doubler, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Il se passe pas grand-chose au niveau du coup on attend toujours c'est toujours un élément extérieur qui fait pencher la balance et donc il faut quand même avoir beaucoup de chance pour gagner aussi à Monaco.
Le vrai fait majeur c'est que Mercedes est encore une fois à je ne sais combien de temps d'avance sur les autres écuries, à savoir tout d'abord Ferrari. Vettel fait ce qu'il peut, hein. Vettel est dans la course.
C'est pas mal ce qu'il fait, Vettel.
Vettel est dans la course à fond et joue la troisième place pratiquement tout le temps. Mais après, Hamilton domine Rosberg, surtout chez Mercedes. Hamilton domine tout. C'était sa première pole à Monaco, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc, il dominait complètement son écurie. Hein.
Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, déjà, première chose pour Vettel, c'est déjà énorme ce qu'il fait. Je pense qu'on est enfin il n'y avait pas grand monde pour dire qu'après voilà après 6 je crois qu'on ouais 6 7 courses 6 courses ben il serait alors à peine entre guillemets hein, à 18 points du deuxième et voilà un peu plus 28 points du troisième parce que faut voir d'où partait Ferrari déjà
ouais.
Donc c'est déjà pas mal ce qu'il est en train de faire et effectivement ben Rosberg Hamilton est devant mais il y a que 10 points d'écart et 10 points d'écart maintenant c'est quoi c'est une première place pour Rosberg et une troisième pour Hamilton. Ça peut aller vite.
Oui, hein. oui, c'est clair. Quand tu regardes le classement maintenant, il y a beaucoup plus d'éclat et même Vettel n'est pas complètement décroché. Donc, ça relance tout cette bévue de l'équipe Mercedes. Après, il faut voir sur la suite de la saison. Je n'ai pas encore en tête ce qui se passe les années précédentes, mais est-ce que ça peut encore changer? Est-ce que la donne peut changer entre les écuries?
Ouais, ça paraît compliqué. Pas.
Parce que là, on a fait le retour en Europe. Si je dis pas de bêtises, on a eu le retour en Europe avec l'Espagne et Monaco. Et normalement, tout est bien réglé et Mercedes a toujours ses temps d'avance.
Le problème, c'est que bon, quand les autres écuries s'améliorent un petit peu et mettent des choses au point, Mercedes qui est déjà devant, il s'améliore aussi. Donc en général, le début de saison, au bout de 2-3 Grands Prix, on a quand même à peu près compris la physionomie de la saison. Et voilà. Pour arriver à repasser devant, bien que Vettel, quand même, comme tu disais tout à l'heure, comptablement, il n'est pas si loin de la deuxième place.
Il suffit un accrochage pour, pour Rosberg, par exemple, où il marque 0 points et Vettel marque 15 ou 18. Du coup, on est accroché. Après, moi, je pense que quand même, ça va. Là, ce qui peut être intéressant, c'est si jamais Rosberg arrive à être devant Hamilton lors du prochain Grand Prix. Et donc, du coup, se rapprocher à 3 points. Là, ça risque de chauffer. Mais sinon, c'est sûr qu'Hamilton, intrinsèquement, il est meilleur, quoi.
Tu penses qu'intrinsèquement il est meilleur? Je suis dubitatif avec ça. Je suis pas un grand connaisseur de Formule 1, mais je comprends pas. Enfin, l'année dernière, les deux étaient dans un mouchoir de poche. Et moi, j'ai bien compris qu'on avait fait pencher la balance en faveur d'Hamilton. Beaucoup plus charismatique, on le dit. D'ailleurs, ça se voit que Eccleston l'a encore dit récemment. Eccleston, le patron de la F1, l'a dit. Hamilton, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus vendeur médiatiquement que ne l'est Rosberg ou Vettel d'ailleurs.
Je suis d'accord avec toi, mais alors en course effectivement il peut y avoir au niveau des qualifs par exemple, c'est quand même très souvent Hamilton qui fait les meilleurs tours quoi. Donc voilà.
Ouais, il suffit de tester 2-3 réglages sur Rosberg.
Le boycott quand même. Alors, je voudrais juste. Ce qui s'est passé exactement, parce que effectivement, l'erreur de Mercedes est venue d'une faute, mais pas de Mercedes à la base, du jeune Verstappen, donc 17 ans, voilà, qui a raté un freinage, quoi. Je sais pas, il pensait que c'était tout droit et il est rentré dans Grosjean. Il est rentré dans Grosjean, ça aurait pu être très dangereux. Alors moi, ça m'a bien fait rigoler parce que on a entendu Grosjean dire que la manœuvre de Verstappen était un peu idiote. Enfin, moi, j'ai le souvenir qu'il y a deux, trois ans. Grosjean, voilà, c'est lui qu'on traitait d'idiot à l'époque.
Oui, Grosjean qui malheureusement était dans les points en plus.
Et oui.
C'est plutôt ça qui est embêtant pour Lotus et pour Renault et Grosjean. Il était dans les points et il termine 12e au final. En plus, heureusement, il n'a pas eu de pépin mécanique, sinon il était abandon également. Ça tombe encore sur lui. Le pauvre Romain Grosjean.
Exactement. Et donc du coup, on va voir. Alors, tu disais on retourne en Europe, même s'il y a un petit passage là au Canada le 7 juin. Après, ils reviendront en Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique. Voilà, c'est après c'est l'Europe. Effectivement.
C'est vrai que ce débat autour de l'ordinateur, donc qui donne cette consigne. Mais cette Mercedes a dit qu'il ne changerait rien malgré ce fait-là, parce que les ordinateurs les ont tellement fait gagner les précédentes courses. Ils se reposent totalement là-dessus. Et
je trouve ça fou, moi.
Ils ont raison, les algorithmes. Que ça ne changerait rien, hein. Ce n'est qu'une erreur. Et on restait sur la même base. C'est quand même assez hallucinant, quoi. La Formule 1 perd quand même de son charme. C'est un fait majeur, quoi, pour la force sport-là, quand même. C'est incroyable.
Parce qu'effectivement, je ne pense pas que le grand public savait que les décisions de rentrer au stand étaient faites par ordinateur. Je savais pas. Moi, je pensais que c'était les ingénieurs sur le moment justement qui donnaient. On y croit trop. On est encore trop croyant. Un peu d'humanisme justement à ce truc, quoi. Alors si c'est même les ordinateurs. Et du coup, c'est tous les ordinateurs de chaque équipe. Donc du coup,
Non, mais c'est n'importe quoi. Et puis surtout, il y a eu cette histoire de quelqu'un, je sais plus qui j'ai entendu, disait qu'il fallait même supprimer les radios pour laisser aux pilotes au moins l'instinct de pouvoir sentir la course comme avant, comme il y a 20 ou 30 ans. Sentir la course et rentrer au stand quand ils en avaient envie et surtout ressentir la voiture. Il n'y a plus rien, quoi. bientôt, il n'y a presque plus à avoir de pilotes hein, dans les Formule 1. Hein. On va arriver à ce point-là.
Hein. Et puis c'est même plus des mécaniciens, quoi. C'est des mathématiciens quoi, qui font des algorithmes. Et...
ouais, ouais.
Alors, on parle de ça, on en parle aussi dans le vélo, à ce qu'on dit, il y avait les oreillettes, hein, où ça déshumanise un petit peu au niveau des tactiques de course et tout ça, parce que c'est vrai qu'ils ont toutes les infos et voilà, ça, c'est un peu bizarre.
Totalement. Et c'est bon, après, je pense que c'est quand même un degré plus important la Formule 1.
Oui,
le vélo, on est encore bon. Voilà,
il reste les jambes.
Il reste les jambes pour tourner, mais la Formule 1, c'est quand même assez inquiétant. Et c'est vrai que ça provoque le débat parce que c'est Mercedes a rendu public quelque chose qui on pensait pas.
Oui, dans le grand public, on savait pas.
Ah ouais, totalement.
Et puis effectivement, du coup, c'est quand même beaucoup moins. Et on le voit depuis certains temps, c'est quand même la Formule 1. Alors ils essayent, c'est beaucoup moins spectaculaire, quoi. C'est beaucoup moins spectaculaire.
Et puis on s'en met en course, du coup.
Exactement. Alors moi j'ai une idée pour réformer la Formule 1. J'ai une idée. La grille de départ du Grand Prix doit être l'inverse de l'ordre d'arrivée du précédent Grand Prix. Tu vois ce que je veux dire?
C'est dangereux.
Hein. Tu vas nous mettre des Indiens devant là, c'est meilleur.
Mais pourquoi?
Mais non. Des accidents, donc.
Là, par exemple, il partirait dernier, voilà, ben, Rosberg, avant-dernier Vettel, et toujours comme ça. Voilà, comme ça, au moins,
il y
aurait du spectacle, parce que si, c'est
à vrai. L'américaine, sous forme de franchise à l'américaine, personne ne monte, personne ne descend, il y a que des gagnants.
C'est un peu ça, mais là, au moins, il y aurait un peu de spectacle, parce que, honnêtement, on s'emmerde.
Non, mais on s'emmerde depuis presque 10 ans, donc.
Eh oui, mais bon, il faut bien trouver quelque chose. Et donc, je trouve que, je sais plus quelle compétition, mais je sais qu'il y avait un truc comme ça où, voilà, c'était inversé. Et effectivement.
En rallye, c'est le contraire.
Et donc, du coup, moi, je trouve que ça pourrait être pas mal, quoi. Parce qu'effectivement, au moins, ça donnerait un peu de spectacle au début. Parce qu'après, ils monteraient, hein, ils doubleraient. Alors, peut-être pas à Monaco, mais ça doublerait partout. Mais au moins, ça donnerait un peu d'émotion, quoi.
Il se passerait des choses.
Exactement.
Non, moi, F1, sincèrement, je trouve plus intéressant à la limite les qualifs que la course, hein, parce que les qualifs c'est un contre-la-montre, mais finalement au moins on le sait, quoi, parce que la course finalement, oui. Comme personne ne double, tout est bouché, bon, il y a aucun intérêt, je trouve, à suivre.
C'est vrai que c'est très intéressant les qualifs, c'est à voir, hein, pour ceux qui l'ont jamais vu, moi je le conseille parce qu'il y a plus d'émotions effectivement, comme tu le dis, Mika. Alors, allez, on va clôturer cette partie Formule 1, sport mécanique. Voilà, mais moi, en tout cas, je préfère les motos. Il y a beaucoup plus de dépassements, c'est beaucoup plus spectaculaire, ça dure moins longtemps. Et on aura l'occasion d'en parler cette année aussi. Et bien, pour clôturer l'émission, on va finir par, ben, comme d'habitude, par l'extra time. Allez, pour finir cette émission, donc l'extra time. Alors, qu'est-ce qui nous a marqué ce week-end, nos coups de cœur, nos coups de boule, qu'est-ce qui était impressionnant? Alors, Nico, tu démarres.
Ah, j'avais envie de revenir sur cette dernière journée de championnat, le championnat de Ligue 1, avec le seul petit enjeu qui est resté, parce que c'est vrai qu'on a été gâté niveau suspense, mais sur la dernière journée, on peut pas dire qu'on a eu beaucoup de choses. Le faible enjeu, c'était pour la troisième place et la victoire de Monaco à Lorient qui a définitivement scellé le sang des Marseillais en quatrième position. Déception pour Marseille, certes, au vu de leur saison, qui a été bonne, autant sur le plan du jeu, vu l'effectif qu'il y avait, bien ça a peut-être tiré le maximum de cet effectif-là, pardon. Mais la quatrième place peut être décevante parce que ce ne sera que la Ligue Europa l'année prochaine, au contraire de Monaco, qui était quand même 19e dans les toutes premières journées et qui se retrouve 3e à la fin de la saison. Sacré perf des hommes de Jardim.
Je suis d'accord avec toi, mais je le répète, effectivement, la troisième place, ça faisait rêver, etc. Mais vu l'état actuel de Marseille, c'est-à-dire avec un investissement inférieur, des joueurs qui s'en vont, donc on ne sait pas trop quel budget, se dire qu'on jouerait peut-être la Champions League, donc du coup, ben, recruter peut-être des joueurs, alors que s'il faut, on ne la jouerait pas, parce qu'il faut quand même passer deux tours. Et on le rappelle, ni Marseille, ni Monaco, non, Monaco ne sera pas, Marseille n'aurait pas été non plus tête de série, donc ça peut tomber contre Valence, contre Manchester United. Et finalement, on joue la Ligue Europa alors qu'on croyait jouer la Champions League avec un investissement, enfin, compliqué. Alors, Monaco a des reins beaucoup plus solides. Donc, du coup, je pense que pour Marseille, honnêtement, pour le futur, ben, vaut mieux être sûr. Voilà, là, au moins, la Ligue Europa, pas de tour préliminaire, il rentre directement en poule, on sait où on va.
Oui.
C'est vraiment le seul point positif.
Oui, 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 tu as raison. Et puis surtout, on sait où on va si Bielsa reste l'année prochaine.
Ouais. C'est moins sûr, ça.
Ça commence quand même, niveau, il va y avoir beaucoup de tractations en coulisses, à la fois pour les quatre premiers du championnat. Ça risque d'être assez agité et peut-être que c'est Paris qui va peut-être le moins bouger. Dans oui. Le premier les quatre premiers. Mais Marseille va pas mal vendre et voilà, ça va être de la recherche calcul d'épicier, tu m'as compris.
Si encore c'était vendre, même pas, ils partent gratuits.
Ah oui, oui, oui.
Et oui, c'est que Gignac part gratuit, Ayou part gratuit, Rotfani part gratuit.
Donc oui, c'est quand même. Je parlais de Thauvin et.
Voilà.
Et Imboula.
Voilà, mais bon, si entre plus ces 3 plus ces 3 plus 2, 5, enfin, ça va, et c'est la moitié de l'équipe, là.
C'est... Ouais, bon, ça va se rattraper en salaire, on va dire ça comme ça. Il y aura des salaires en moins, mais bon, non,
C'est quand même quétaine du côté de Marseille. Hein.
Ça a été bien négocié. Contrairement à Monaco, qui, de son côté, a prévu un budget à la hausse, même sans Ligue des Champions. Donc, ils ont à peu près tout calculé du côté de Monaco, et ça va être encore très, très intéressant. Sachant que Falcao revient, mais qu'ils n'en veulent plus. Parce qu'il va falloir le vendre sans trop le pas au rabais, hein, quoi. Faut pas falloir le vendre non plus trop cher, mais il a 14 millions d'euros en termes de salaire, donc
Ah, mais ce qui est fabuleux, c'est combien il a acheté Falcao? 60 millions d'euros, 60, je crois.
Ouais, 60, ouais, un peu plus, ouais.
Donc
ouais.
Ça veut dire combien il y a combien sur le marché maintenant Falcao? Une vingtaine.
Je crois que Manchester a payé son salaire et il a payé 15 millions. Rien que sur le prêt.
Non, mais c'est ça.
À mon avis, il a 20 ou 30 millions d'euros.
Voilà, plus de salaire, je vois pas beaucoup d'équipes qui vont pouvoir s'aligner, hein.
Les Anglais, un club de seconde zone anglaise, sûr. Apparemment, Valence est sur le coup, mais bon, ça va être compliqué pour Valence.
Alors, il y a un nouvel investisseur, Peter Lim à Valence, donc il y a de l'argent, et ils comptent faire, ils auront la Ligue des Champions. Alors, auront, ben, un peu comme Monaco, on verra ça à l'ultra doute.
On verra ça, ouais.
Mais il y a quand même de la monnaie qui est arrivée à Valence, ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Donc, effectivement. Alors, pour Marseille, pour l'anecdote, Bielsa, il y a le traducteur partirait.
Oui.
Donc je ne sais pas si c'est.
J'ai aussi entendu dire qu'il avait fixé la reprise de l'entraînement au 22 juin. Et c'est très tôt par rapport à notre équipe.
Le 22 juin.
C'est peut-être un signe.
Voilà, donc cette Ligue 1 qui a rendu son verdict et voilà, qui est quand même pour en parler un petit peu, qui a quand même été passionnante cette année. Je pense qu'en base, Nico, c'est vraiment année où on s'est régalé.
Oui, on a vu de très très belles équipes. Alors certes, Monaco n'a pas toujours été flamboyant, mais Paris, Lyon et Marseille ont montré beaucoup de belles choses. On a eu de beaux matchs. Et on n'a pas à rougir sur cette année 2014-2015.
Et puis je pense que sur les prochaines saisons, ça devrait monter correctement et ce sera peut-être de plus en plus intéressant puisque avec une équipe qui mène devant, je pense pas que ce soit comme en Allemagne. Il devrait y avoir derrière quand même des 2-3 clubs qui des investisseurs, des
notamment Lyon, on verra comment
le nouveau stade.
Voilà, le nouveau stade. Alors il y a pas mal de nouveaux stades, mais il faut dire que c'est celui de Lyon, c'est quand même le seul qui sera propriétaire. Donc du coup au niveau des rentrées, c'est quand même complètement autre chose par rapport à Bordeaux par exemple où c'est des stades municipaux.
Oui. C'est vrai qu'en termes, enfin, économiquement, Lyon n'était pas très bien ces dernières années, mais là, c'est le pactole, hein. C'est-à-dire, c'est 30 millions avec la Ligue des Champions avec cette seconde place. C'est la Casette qui va partir pour un prix, peut-être démesuré. Mais Olas est très très bon pour vendre à prix démesuré. Et donc, ça peut être un pactole entier pour Lyon, mais il y a que du bénéfice pour Lyon, hein, dans cette saison-là. Ils sont pas premiers, ils n'ont pas versé les primes de champion. Ils vont choper le pactole de la Ligue des Champions.
Ouais. Tu crois qu'il va partir à la Casette?
Oui. Oui.
L'année. Alors, moi, si j'avais un conseil à lui donner, ce serait de ne pas partir cette année.
Il ne suivra pas.
C'est dommage.
non, mais.
Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a l'euro à la fin de l'année. Oui. C'est pas le moment d'aller, comme avait fait un peu Lucas Digne, rappelle-toi, quand il avait été très, très, le meilleur latéral gauche de Ligue 1, mais à partir à Paris, il s'est un petit peu enterré parce qu'il ne joue pas. Et la Casette, par exemple, s'il allait à Paris, oui.
Je vais te dire, d'une, il va partir et de deux, Olas va tout faire pour le vendre. Donc, Olas veut tirer 60 millions d'euros de la Casette, donc, et rapidement.
60 millions d'euros.
Parce que
ça fait vivre.
Parce que 27 buts, non, mais je dis 60, mais ce sera peut-être que 40, hein, mais.
Il a marqué plus que Zlatan, hein.
Voilà, 27 buts, une saison à 27 buts, il en fera peut-être pas deux comme ça en
ligne.
Ouais. Attention aux joueurs surcotés peut-être aussi. Bon, super bon, la Casette, excellent, mais, voilà, une seule vraie, véritable saison, voilà, après, il a pas fait deux énormes saisons avant.
Il y en a d'autres qui ont fait ça. Hein.
Voilà, c'est ça. Non,
c'est pas le premier.
Attention. Et je serais d'accord avec Yves pour dire qu'il devrait rester à Lyon aussi.
Exactement. Les connaisseurs. Alors, Mika, toi.
Ouais, les amis de Radio Vélo étaient sur la ronde de l'Isard ce week-end. En même temps, il y avait le Giro. Donc quand même un petit mot du Giro qui commence à être bien ficelé avec Contador qui assure devant Aru qui était le principal outsider cette année.
Il y avait Richie Porte, il a abandonné.
Là il avait un problème.
Ouais, il était tombé.
Il s'était blessé. Voilà, donc suite à l'étape de ce week-end, ça en est fini pour lui. Et puis un petit mot pour Alexandre Géniès qui fait suivre tous les jours sur son Facebook, qui vit la course de l'intérieur grâce à lui. Les amis super. De Radio Vélo le connaissent bien et participent à ça avec lui. Qui est 10e du général actuellement, donc c'est sur une course aussi compliquée que le Giro, c'est une vraie performance. Donc bon, et après les Français qui avaient gazé dans le Tour l'année dernière ne participent pas au Giro, donc voilà, il fait bonne figure pour le clan français sur cette compétition.
Très belle étape hier, première étape. Alors aujourd'hui c'était la journée de repos, hier c'était l'étape première étape de grosse montagne et il a tenu la dragée haute. Hein, il s'est fait lâcher juste, je crois, vers le troisième, les trois derniers kilomètres. Et ce qui était impressionnant, c'est juste qu'il y a Alberto Contador face à Saint Castana. Il est tout seul, Alberto Contador, mais c'est lui qui commande, quoi.
Oui.
Je sais pas si vous avez vu la course.
Il distribue les points, en plus. Il laisse partir le troisième, là, du groupe. Il laisse partir l'autre espagnol. Donc, il fait un petit peu ce qu'il veut, dans ce Giro.
Ça promet un tour intéressant s'il garde la forme.
On peut compter sur lui, je crois, pour garder la forme. Moi, je voulais terminer parce que voilà, vous le savez, moi, je suis d'origine catalane et ce week-end, il y a eu le dernier match de championnat de Xavi, de Xavi, donc le milieu de terrain de Barcelone qui est pour moi l'artificier de tous les titres de Barcelone avec Messi bien évidemment, mais aussi et surtout l'artificier des titres de la sélection espagnole. Voilà, on le rappelle, champion d'Europe en 2008, en 2012, champion du monde en 2010. Ça a été un joueur extraordinaire, très atypique, et je suis pas sûr qu'on en revoie des comme lui. Nico.
Ah ouais, alors là.
Très atypique, c'est ça surtout.
C'est monument là, parce que Gerrard s'en va de Liverpool la même année, et là on a Xavi, c'est la même génération, et Xavi aura marqué, bon, le Barça bien entendu, hein, c'est peut-être le personnage numéro un, emblématique du Barça, mais surtout la sélection espagnole, tu l'as
c'est
dit,
ça.
Avec Casillas, ce sont quand même les deux têtes pensantes de l'équipe espagnole, de la sélection, c'est monument là, tu peux pas dire plus que ça.
Exactement, donc on le rappelle, première saison en 1998 avec Luis Van Gaal, c'est Luis Van Gaal qui a fait monter Xavi, Puyol, Iniesta, Valdés. Voilà, j'aime à le rappeler parce qu'il est souvent critiqué, Luis Van Gaal. Et puis Xavi, voilà, c'est vraiment le joueur qui a donné cette empreinte du style de jeu à Barcelone. C'est ça,
c'est lui qui caractérise surtout le style de jeu et qui se rapproche le plus de ce qu'on voit du Barça, de ce qu'on pense du Barça. Il symbolise totalement le style de jeu, la Masia.
La Masia, ouais.
De formation. Exactement,
voilà. Donc, un petit clin d'œil pour lui parce que, voilà, on perd un grand qui part vers le Qatar pour sa fin de carrière sportive. Et ben voilà.
Oui, la tête haute vers le
exactement.
Qatar. Comme Gerrard part la tête haute vers les États-Unis, voilà.
Exactement. Allez, on se retrouvera c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Il va y avoir du sport à 19h.
Salut à tous, monsieur.
Salut à tous.
Bye. Back in the last.
C'est ta radio.
C'est votre web radio.
C'est ta radio.fr.
Tout de suite. Une heure